Lizzie présente Un couple irréprochable de Alafer Burke, lu par Audrey Dulster et Fabienne Loriot. Pour la Puzzle Guide, amitié et fantaisie à jamais. En un instant, je suis devenue celle que j'étais censée être depuis le début. L'épouse qui ment pour protéger son mari. J'ai bien failli ne pas entendre toquer à la porte d'entrée. J'avais ôté le heurtoir de cuivre 12 jours plus tôt, comme si c'était suffisant pour empêcher d'autres journalistes de se présenter chez moi, à l'improviste. Quand j'ai fini par identifier l'origine du bruit, je me suis redressée dans mon lit et j'ai récupéré la télécommande pour couper le son de la télévision. Luttant contre l'instinct qui me poussait à ne pas bouger, je me suis levée pour aller écarter les rideaux devant la fenêtre de ma chambre. Éblouie par la lumière de l'après-midi, j'ai plissé les yeux. J'ai distingué sur mon perron la silhouette d'une femme aux courts cheveux noirs. L'Impala garée devant la bouche d'incendie de l'autre côté de la rue aurait tout aussi bien pu s'orner d'un panneau « voiture de patrouille banalisée ». C'était encore cette inspectrice de police. J'avais rangé sa carte de visite dans mon portefeuille pour éviter que Jason ne tombe dessus par inadvertance. Elle frappait toujours à la porte et je me suis bornée à l'observer jusqu'au moment où elle s'est assise sur une marche, avant d'ouvrir le journal déposé par le livreur. Après avoir enfilé un sweatshirt par-dessus mon pyjama, je suis descendue au rez-de-chaussée.
« Je vous ai réveillée ?»
a-t-elle lancé d'un ton réprobateur.
« À 3 heures de l'après-midi. »
J'aurais aimé rétorquer que j'avais tout à fait le droit de me reposer chez moi sans avoir à me justifier. Pourtant, je me suis contentée de marmonner que j'avais la migraine. Mensonge numéro 1. Un petit. Mais un mensonge quand même.
« Je vous conseille un mélange de vinaigre et de miel », a-t-elle déclaré. « Ça marche à tous les coups. »
« Je crois que je préfère encore avoir mal à la tête. » « Bon, si vous voulez parler à Jason, adressez-vous à notre avocate. »«
Je vous l'ai déjà dit, Olivia Rendall n'est pas votre avocate, c'est celle de votre mari. »
Lorsque j'ai voulu fermer le battant, elle l'a écarté avec autorité.
« Écoutez, Angela, vous pensez sans doute que l'instruction concernant votre époux est suspendue. Or, je suis habilitée à poursuivre mes investigations, surtout dans le cadre d'une nouvelle affaire. »
J'aurais sans doute dû lui claquer la porte au nez, mais elle brandissait la menace d'une autre calamité imminente. Mieux valait la prendre en pleine figure plutôt que d'attendre qu'elle me tombe dessus par surprise. De quoi s'agit-il cette fois?
J'ai besoin de savoir où se trouvait Jason hier soir.
Pourquoi fallait-il qu'elle m'interroge justement sur cette nuit-là? Si la question avait porté sur n'importe quelle autre date au cours de nos 6 dernières années de mariage, je lui aurais répondu en toute franchise. J'avais déjà été informée par l'avocate de Jason que pour ce genre d'informations, je ne pouvais pas me retrancher derrière le principe du privilège conjugal. Si on me traînait devant un jury, ma réticence à répondre pourrait passer pour l'aveu implicite que je cachais quelque chose. Or, cette policière ne faisait que formuler une demande simple. Où était mon mari la veille au soir?
Il était ici, avec moi.
La dernière fois qu'un policier m'avait posé une question directe remontait à 12 ans. Pourtant, ma première réaction était toujours de mentir.
Toute la nuit?
Oui.
Un ami nous avait apporté à manger pour la journée. On évite les apparitions en public depuis quelque temps. Quel ami?
Colin Harris.
Il avait acheté des plats dans un restaurant de Gotham. Je peux vous donner les coordonnées de l'établissement si vous voulez vérifier.
Quelqu'un d'autre peut confirmer que votre mari était ici avec vous?
Mon fils, Spencer.
Il a téléphoné de son camp de vacances vers 19h30 et nous a parlé à tous les deux.
Les mots semblaient jaillir tout seuls de ma bouche, s'enchaînant avec aisance.
Vous n'avez qu'à éplucher nos relevés téléphoniques si vous ne me croyez pas.
Bon, vous allez m'expliquer ce qui se passe.
Kerry Lynch a disparu.
Cette déclaration m'a fait un drôle d'effet. Kerry Lynch a disparu. Cette femme qui nous harcelait s'était soudain volatilisée. Évidemment qu'il s'agissait d'elle. Notre existence tout entière ne tournait plus qu'autour d'elle depuis 2 semaines. Mes lèvres remuaient toujours, presque malgré moi. J'ai prétendu que Jason et moi avions regardé ensemble La La Land en streaming avant de nous endormir. alors que j'avais visionné seul le film. Les détails affluaient si facilement. Puis j'ai décidé de feindre une vertueuse indignation, me déclarant scandalisée que la police vienne directement chez nous, quand Kerry Lynch pouvait être n'importe où. Sur ma lancée, je lui ai même proposé d'un ton courroucé de fouiller la maison, mais en réalité, mon cerveau s'activait. J'étais sûre que Jason pourrait raconter le film si on lui posait des questions à ce sujet. Il l'avait vu dans l'avion la dernière fois qu'il était rentré de Londres. Le problème, c'était Spencer. Comment réagirait-il si on l'interrogeait à propos de ce coup de téléphone? Mon exaspération ne semblait pas avoir perturbé mon interlocutrice. Vous êtes sûre de bien connaître votre mari, Angela? Je sais qu'il est innocent, en tout cas. Vous n'êtes pas seulement un témoin. Vous le couvrez. Ce qui signifie que je ne peux pas vous aider. Un conseil. Ne laissez pas Jason vous entraîner dans sa chute, votre fils et vous. J'ai attendu que l'Impala s'éloigne pour saisir mon téléphone. Jason était en réunion avec des clients, mais il a décroché immédiatement. Je lui avais signifié la veille que je ne voulais plus lui parler avant d'avoir pris certaines décisions.
« Je suis heureux de t'entendre »,
a-t-il dit. Une seule conversation avait suffi pour que je me conforme aux stéréotypes de la bonne petite épouse. J'étais complice à présent, mouillée jusqu'au cou. Kerry Lynch a disparu, Jason. Je t'en prie, dis-moi que tu n'as pas fait ça à cause de moi. Première partie, Rachel. Chapitre 1. Nos ennuis ont commencé avec une fille prénommée Rachel. Non, pardon, pas une fille, une femme prénommée Rachel. Aujourd'hui, même les adolescentes sont qualifiées de jeunes femmes, comme s'il y avait quelque chose d'affreusement péjoratif à être une fille. Je ne m'y suis toujours pas habituée. Lorsque je suis moi-même passée de statut de fille à celui de femme, un moment de mon existence auquel j'aurais dû attacher de l'importance, j'avais bien trop de soucis en tête pour m'en préoccuper. Jason m'a parlé de l'incident avec Rachel le jour même où il s'est produit. Nous étions au Lupa, installés à notre table préférée, au fond de la salle bondée, dans un petit coin relativement tranquille. De mon côté, la journée n'avait été marquée que par deux événements. D'abord, l'artisan à qui j'avais fait appel était parvenu à réparer la charnière du placard dans la salle de bain d'amis, mais avait signalé que le bois avait travaillé et qu'il faudrait tôt ou tard remplacer la porte. Ensuite, la directrice du comité de la vente aux enchères annuelles, organisée par le collège de Spencer, avait appelé pour demander si Jason accepterait de participer à un dîner. « On vient déjà de donner, non ?» s'est-il étonné en se servant un gros morceau de la burrata que nous partagions.
« Toi, tu devais cuisiner un repas. »
Notre fils, Spencer, est en cinquième à Friends Seminary. Tous les ans, pour la vente aux enchères, l'établissement nous réclame non seulement une participation financière, en plus des frais de scolarité astronomiques dont nous nous acquittons, mais aussi un lot à notre convenance. Six semaines plus tôt, j'avais opté pour notre contribution habituelle. Je préparerai un dîner, pour 8, dans la maison de l'enchérisseur le plus généreux. Rares étaient ceux qui désormais m'associaient aux réceptions estivales que je prenais autrefois en charge dans les Hamptons. Aussi Jason veillait-il à flatter mon égo en faisant monter les prix. Je l'avais cependant convaincu d'arrêter une fois atteinte la somme de 1 000 $. Je sais, mais le comité a élu une nouvelle présidente pour l'année prochaine et elle est déjà à pied d'œuvre. À mon avis, elle n'est pas assez occupée.
Autrement dit, tu as affaire à quelqu'un qui prévoit tout, jusqu'au moindre détail, des mois à l'avance. Je ne peux même pas imaginer à quel point tu dois souffrir.
Il m'a regardé avec un petit sourire moqueur. C'est moi l'organisatrice de la famille. Moi qui veille au bon déroulement des activités quotidiennes et au respect d'une longue liste de ce que Spencer et lui ont baptisé les règles de maman, toutes conçues pour rendre notre existence routinière et totalement prévisible, ou agréable et ennuyeuse à souhait, comme j'aime à le répéter.